La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Longeau.
Bonjour à toutes et à tous. La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma, est toujours en compagnie de Nicolas Thirion. Bonjour Nicolas Thirion.
Bonjour Magali.
Et nous sommes toujours en train de nous pencher sur ce beau film des Torrescola, une journée particulière. Comment dit-on en italien, puisque vous le parlez ?
Una giornata particolare.
Et cette journée particulière, quelle est-elle ?
Ben c'est la visite d'État que fait Hitler à Mussolini, et plus particulièrement dans cette visite d'État qui s'étire du 3 au 9 mai 1938, la journée du 6 mai, au cours de laquelle une grande parade militaire est donnée dans les rues de Rome pour la population.
Voilà, donc nous sommes à l'intérieur d'un immeuble, et dans cet immeuble déserté par l'essentiel de ses habitants, pour ne pas dire tous ses habitants, ne reste que trois individus que vous allez nous présenter.
Oui, alors il y a par ordre d'apparition, si je puis dire, et je laisse de côté la concierge Madame Cecilia, sur laquelle je reviendrai dans un instant. Il y a d'abord le personnage d'Antonietta, qui est incarné par Sophia Loren, et qui est en fait une femme soumise à son mari. C'est une femme qui correspond grosso modo à quelqu'un qui n'a aucun avantage ni matériel, ni culturel, ni scolaire, et qui est parmi les plus démunis qui soient, totalement entre les mains effectivement d'un mari autoritaire, tout à fait dévoué par la force des choses à l'éducation de ses six enfants, et dont la vie se résume grosso modo à être la servante, la domestique, parfois dans une certaine mesure l'esclave de son mari et de ses enfants. Donc l'incarnation, en quelque sorte, de la femme dans ce qu'elle pouvait avoir de plus dépendant et de plus infériorisé dans la société italienne de l'époque. Et d'ailleurs peut-être pas uniquement dans la société italienne de l'époque. Ça c'est le premier personnage que l'on voit. Et le deuxième personnage, masculin, lui, c'est le personnage de Gabriele, qui est le personnage d'un autre locataire de cet immeuble, et qui, lui, est un homme qui vit reclus, dont on apprend grosso modo qu'il a été progressivement révoqué de postes antérieurs, et dont on comprendra ultérieurement que sa singularité à lui, qui le rend lui aussi exclu, en marge de la société, c'est qu'il est un homosexuel. Ce qui, dans l'Italie mussolinienne, n'est pas non plus particulièrement prisé. Et donc on a ces deux personnages qui sont deux incarnations de deux positions à la fois sociales et sexuelles infériorisées dans l'Italie de cette époque. Et puis, on a ce troisième personnage, qui est le personnage de la concierge, et qui, aussi longtemps que l'immeuble est vide, et que l'on entend au loin la parade, puisque la parade est constamment accessible à nos oreilles par le bruit qui en est fait systématiquement. Via le transistor que la concierge place dans la cour de l'immeuble, à la fois pour suivre elle-même la parade, et pour d'autre part empêcher toute autre considération, et notamment toute autre conversation intime qui pourrait avoir lieu dans le cadre de cette situation. Elle est le rappel à l'ordre, effectivement, elle est l'incarnation de ce pouvoir fasciste qui, jusque dans la population la plus importante, était présente.
Donc on a toujours, on peut avoir quelques échanges verbaux ou quelques peut-être tentatives de conversation téléphonique ou peut-être petite chanson qui peut être un peu ébauchée par l'un des protagonistes, mais il y a toujours un arrière-plan sonore, plus ou moins avec une intensité importante, cette voix du licteur qui est en train de commenter le défilé, la parade, la liesse de la population.
Quoi qu'on fasse ou quoi qu'on ne fasse pas en l'espèce, puisque les deux personnages en l'espèce ne font pas le pas vers la manifestation, puisqu'ils y sont en quelque sorte peu souhaités. Quoi qu'ils fassent ou qu'ils ne fassent pas, le pouvoir est toujours là.
Le pouvoir est toujours là, oui, effectivement. On a la main visible, oui. Donc ici, la parole visible.
Oui, la parole visible, la parole audible en permanence du pouvoir.
Du pouvoir. On va écouter un troisième extrait.
Con una mi sono anche fidanzato. Una della radio. Perché si risapesse. La portavo a cena, al cinema. Insomma, in tutti quei posti dove ero sicuro che ci avrebbero vista assieme. Mi fingevo pazzo di lei. E lei di me. Era una buona amica che voleva aiutarmi. Ma forse recitavo male la mia parte. Poi un giorno mi hanno chiamato in direzione e mi hanno detto che non facevo più parte della famiglia Eger. Non è la tessera del partito, mi hanno detto. No, ce l'ho. No, dice, ce l'avevi. Te l'abbiamo ritirata perché quelli come te non possono far parte del nostro partito, che è un partito di uomini. Allora, io tentai di barare esibendo un certificato medico che dichiarava che non ero omosessuale. Sì, insomma che ero un individuo normale.
Ci hanno creduto?
Ma che? Ah, oh, peggio. Ma certo fu un errore. Se uno non lo è, non va in giro con il certificato, no? E questa è la cosa più grave, che cerchi di sembrare diverso da quello che sei. Ti obbligano a vergognarti di te stesso, a nasconderti. Che le nazioni d'Europa troveranno quella
tranquillità e quella pace che sono indispensabili. A me però l'hai detto.
Sì, con te ho trovato il coraggio. Perché non sei come gli altri.
Non è vero. T'ho pigliato pure a schiaffi.
Già, però stai qui con me.
Come fai a tirare avanti?
Mi occupo di corrispondenza pubblicitaria per conto di un grande emporio. Scrivo gli indirizzi dei clienti sulle buste. È un lavoro che mi ha lasciato un mio amico. Partito più di un anno fa. Confinato in Sardegna, a Carboni.
Era un subversivo.
Sovversivo come me. Andai a salutarlo quando lo imbarcarono a Civitavecchia ed è stata l'ultima volta che l'ho visto mentre saliva sul battello.
Tieni una bella calligrafia. Me ne spedisci una pure a me.
Où sommes-nous avec cet extrait ?
Alors là, nous sommes effectivement dans l'un des deux appartements et Antonietta et Gabriele se sont préalablement rencontrés à la suite d'un événement minuscule qui est l'évasion du ménat de la famille d'Antonietta dans la cour de l'immeuble. Et donc, Elle va tenter de le retrouver avec l'aide de cet unique locataire encore présent dans l'immeuble. Et cette journée particulière, qui est la journée, de nouveau, de la part de la population en général, de l'accueil de Hitler par Mussolini, c'est une journée particulière pour eux parce que ça va être la rencontre de leurs deux solitudes, mais aussi de leurs deux souffrances très différentes l'une de l'autre. Et ici, c'est le personnage de Gabriele qui va s'ouvrir à un moment donné autour d'un repas très simple.
Une omelette.
Une omelette, en effet, faite par lui, qui va s'ouvrir sur sa particularité à lui et qui va lui expliquer, en effet, que en tant qu'homosexuel, qu'il a vainement tenté de cacher, évidemment, en essayant de se présenter en compagnie d'une amie comme étant sa fiancée, etc., etc. Mastroianni, donc Gabriele, lui explique non seulement sa condition d'homosexuel, sa révocation de la radio italienne pour cette raison, et du fait qu'effectivement, puisque c'est un mot qu'on ne prononce pas, il faut savoir que sous l'Italie de Mussolini, ce mot n'a jamais été prononcé, notamment dans la presse de propagande italienne.
En réalité, mot homosexuel.
Le mot homosexuel, on ne dit pas, ça n'existe pas, un peu comme en Iran, il y a quelques années, on disait que ça n'existait pas. Et donc, Mastroianni est révoqué parce qu'il est subversif, mais derrière cette subversion, c'est cette minorité, cette appartenance à une minorité sexuelle qui est en réalité la raison véritable. Et il annonce ou il informe Antonietta que les gens comme lui peuvent faire l'objet de mesures extrêmement dures, comme simplement l'exil, en tout cas le confinement dans une région d'Italie où on parque, en quelque sorte, on déporte les subversifs et on peut notamment déporter parmi les subversifs ceux qui se trouvent être subversifs tout simplement parce qu'ils sont homosexuels. Et il explique notamment à Antonietta que un ami, qu'on suppose être son ami, est déjà expulsé, déjà déporté, déjà exilé, et on apprendra plus tard que lui aussi est amené à être déporté en Sardaigne sur la base de ces mesures que Mussolini avait mises en place pour écarter les subversifs des villes et des endroits les plus dangereux.
Les plus dangereux au sens où il pouvait y avoir des regroupements,
voilà.
des clubs, etc.
Voilà, exactement. Et donc, et donc l'idée, c'est effectivement de les écarter, de les invisibiliser. Et là encore, de faire en sorte que, faute de ne pas pouvoir faire en sorte qu'il n'existe pas, de faire en tout cas comme s'il n'existait pas.
D'un point de vue juridique, quels étaient les textes qui étaient applicables dans cette période-là, mussolinienne ?
Comme dans beaucoup de pays européens, l'homosexualité en tant que telle n'était pas réprimée, donc il n'y avait pas de répression. Le code pénal italien antérieur à celui applicable dans le film, est un code qui avait dépénalisé complètement l'homosexualité, et le code pénal italien fasciste de 1930 avait maintenu cette dépénalisation. Il n'y avait pas d'incrimination spécifique de l'homosexualité, mais il y avait, comme toujours dans le code pénal, des incriminations de type sexuel, comme outrage aux bonnes mœurs, ou comme détournement de mineurs, ou comme délit de violence charnelle, qui étaient en quelque sorte des incriminations fourre-tout, qu'il était très facile d'appliquer spécifiquement aux relations homosexuelles. Donc on ne punissait pas de prime abord les relations homosexuelles. Et pourquoi les aurait-on punies? Puisqu'elles n'existaient pas, ou en tout cas, dans l'imaginaire qu'il fallait imposer, en Italie, il n'y a pas d'homosexuels. Mais si par malheur il s'avérait qu'on en découvrait, alors on pouvait très facilement les mettre de côté moyennant ce type d'incrimination sexuelle. Et quand bien même on n'aurait pas pu leur imputer de telles incriminations sexuelles, alors on avait des mesures administratives d'éloignement qui étaient prévues par une loi de 1930 également. Et ces mesures d'éloignement étaient des mesures purement administratives. Donc un juge n'avait pas à intervenir. C'est le préfet ou c'était le maire qui pouvait, en quelque sorte, faire expulser ou faire déporter le subversif en question.
Donc le fameux confino di polizia.
Le confino di polizia.
Voilà, donc en Sardaigne, et il est question de cet élément dans l'échange que Gabriel et Antonietta ont dans le salon, puisqu'ils ont quitté, là, dans l'extrait que nous venons d'écouter, la cuisine, mais ils se sont rapprochés du salon, et Antonietta s'intéresse à son activité. Parce que vous nous l'avez dit, c'est une femme qui n'a pas d'éducation, une femme qui n'a pas de culture, une femme qui est soumise, mais en même temps, elle comprend un certain nombre de choses et elle a compris la situation dans laquelle il était, puisqu'elle prononce le mot de subversif.
Mais subversif, et rajoute Mastroianni, enfin Gabriel est subversif comme moi, avec l'ironie très particulière de ce personnage. Le personnage de Gabriel est une sorte de désespéré qui garde dans une certaine mesure un certain humour. C'est comme quand il dit que, par exemple, ce n'est pas le locataire du sixième qui est contre le fascisme, mais c'est le fascisme qui est contre le locataire du sixième. Donc il garde toujours cette sorte de détachement, mais ce qui fait que, malgré son manque d'éducation, son manque de culture, Antonietta comprend Mastroianni, Gabriele, c'est précisément parce qu'elle-même, en quelque sorte, est le fruit d'une infériorisation institutionnalisée par ailleurs. Donc elle aussi est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, est infériorisée et réduite à un état de servitude indigne. Et je pense que cette situation-là, et le fait que la rencontre la mette en présence de quelqu'un qui ne correspond pas du tout à l'image qu'on se fait de l'homme dans le mythe mussolinien, fait que, spontanément, elle comprend la situation du
instinctivement.
Instinctivement, donc elle a une intelligence instinctive qui lui fait d'emblée comprendre, non pas une communauté de destin, puisque les deux destins vont, à un moment ou à un autre, se séparer, mais tout au moins une communauté de souffrance, en tout cas, une communauté de
relégués.
De relégués, oui, tout à fait.
Alors, nous voyons le parti mussolinien, qui est ici transcrit par Madame Cecilia. Nous avons la bande-son qui ne nous épargne rien des discours de la visite officielle d'Hitler à Rome, et avec la voix du Lichter, nous n'avons rien qui rappelle de près ou de loin la place de l'Église catholique.
Alors c'est tout un débat, évidemment, en ce qui concerne les relations entre l'Église catholique et Mussolini. Il faut savoir que l'Église catholique a été, dans une certaine mesure, favorisée par Mussolini, grâce aux accords de Latran qui ont attribué au Vatican le statut d'État. Et par conséquent, l'Église catholique d'Italie, et plus largement la papauté, a eu à l'égard de Mussolini, disons, une sympathie modérée. Ce qui fait qu'effectivement, l'Église catholique n'a jamais brûlé dans les brancards pendant toute la période où Mussolini a été au pouvoir. Alors en l'espèce, effectivement, on ne parle pas du poids de l'Église catholique directement, puisqu'on montre essentiellement le pouvoir politique, le pouvoir fasciste, et je pense que Scola voulait vraiment montrer comment le pouvoir fasciste à la fois s'est abreuvé à des inspirations antérieures et continue d'irriguer des périodes postérieures, mais il n'avait pas besoin de l'Église catholique, ou il n'avait pas besoin d'insister ou de mettre l'accent sur le rôle de l'Église catholique et sur, au fond, l'influence qu'elle a pu avoir, si ce n'est implicitement par le fait qu'effectivement, la population elle-même était acquise à ces valeurs inégalitaires qui étaient prônées par le régime mussolinien. Donc, inégalité de l'homme, de la femme vis-à-vis de l'homme, inégalité de l'homosexuel vis-à-vis de l'hétérosexuel, ce sont évidemment des valeurs que l'Église catholique a contribué, par définition, à implanter dans les esprits Et donc, en quelque sorte, c'était une source d'inspiration pour le fascisme mussolinien, mais je n'ai pas l'impression que Scola avait besoin d'insister beaucoup là-dessus, puisque, au fond, implicitement mais sûrement, l'atmosphère qui régnait à l'égard des femmes et des homosexuels était forcément en partie influencé par la position que l'Église catholique avait sur ces sujets.
On aurait très bien pu imaginer qu'Antonietta, dans ses croyances, hein, puisqu'elle croit qu'elle a été en quelque sorte infantée par le Duce lui-même, aurait pu avoir une double croyance, à la fois son carnet comme un petit cahier d'écolier avec les photos du Duce, et puis de l'autre, une espèce de syncrétisme avec les convictions catholiques.
Ah, ça aurait pu être le cas, mais je pense que ça aurait peut-être pu brouiller le message de Scola, peut-être, c'est évidemment là une supputation, une hypothèse, que ça aurait pu brouiller le message de Scola dans ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire en quoi... les germes du fascisme ne sont pas propres au fascisme, mais sont d'une certaine façon éternels. C'est-à-dire le besoin d'exclure, le besoin d'enclore certaines catégories de la population que l'on juge dangereuses, malfaisantes.
Déviant.
Tout ça, finalement, c'est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les sociétés et dont le fascisme n'a fait que porter la logique à l'incandescence. Et peut-être que le fait de rajouter une thématique qui était celle du poids de l'Église catholique aurait un peu brouillé ce message-là de Scola.
Merci pour ces éclairages sur la situation de Gabriele, interprété par Marcello Mastroianni. Merci Nicolas Thirion. À bientôt.
À bientôt.